It's Morning Edition from NPR News.
Nancy Keys and Peter Housey.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes au Chili, qui vote pour élire son prochain président ce dimanche. Premières élections depuis le printemps chilien, les manifestations de 2019. Premières élections surtout depuis l'installation et le début des travaux de l'Assemblée constituante qui doit écrire une nouvelle constitution en fonction du président élu. Ça passe ou ça casse pour cette transformation du pays. Le bruit du monde se déguste lentement ce soir. J'ose pas vous parler du prix du kilo. La truffe blanche d'Alba se chasse en ce moment en Italie, denrée de plus en plus rare et de plus en plus cher. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé une ville du Michigan entièrement dirigée par des musulmans, un steak saignant au Vietnam et un orchestre inédit et pléthorique au Venezuela. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Bouin à Bruxelles qui va nous parler de taxonomie. Il n'y a que Bruxelles pour inventer des noms pareils, mais vous verrez, une fois expliqué, que c'est important et ça touche surtout à votre facture énergétique. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four avec cette question. Est-ce que la communauté internationale peut encore empêcher l'engrenage de la guerre ethnique en Éthiopie? Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Cécile Falliès.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre spécialité, c'est le Chili. Voilà un scrutin. Cécile Falliès surveillait très très près cette élection présidentielle au Chili, qui concerne d'ailleurs aussi la Chambre des députés et une partie du Sénat. Une élection qui fait suite donc, je le disais, à un épisode transformateur, les grandes manifestations de 2019, puissant mouvement contestataire qui a débouché sur l'élection d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution, et c'est en cours. Elle peut, cette élection, tirer un trait peut-être définitif ou pas sur ce qui se passe à la constituante. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Est-ce que c'est vraiment ça, stop ou encore, ce qui se joue pour cette élection présidentielle ou pas?
Tout à fait ça. En fonction de l'élection qui aura lieu dimanche, puis du second tour, de la sortie, on peut avoir deux candidats, enfin, en tout cas ce que les sondages disent, deux présidents qui sont pour l'un orthogonal à ce projet de nouvelle constitution qu'il a combattu. Donc c'est le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, ou bien quelqu'un qui a contribué depuis les manifestations de 2012 aux mouvements sociaux, puis à l'élaboration d'une constitution.
Qui s'appelle Gabriel Boric. Donc, tous deux, vous le disiez, sont les extrémités de leurs courants politiques respectifs. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Rien de la droite traditionnelle ou de la gauche traditionnelle ne semble désormais passer la barre au Chili.
C'est effectivement très polarisé. Alors, c'est ce que disent les sondages. Peut-être que le dernier débat qui a eu lieu lundi soir au Chili va changer les choses, puisque ce ne sont pas les candidats qui se sont montrés sous leur meilleur jour, les deux favoris. Peut-être qu'au dernier moment, le vote de dimanche fera sortir quelqu'un de plus consensuel, de plus rassurant, que ce soit Sébastien Sichel.
Pour la coalition de la droite.
Voilà, centre-droite, ou Jasna Proboste pour la démocratie chrétienne.
Alors, la tête des sondages pour l'instant, vous avez raison, méfions-nous, on sait dans tous les pays qu'il faut faire attention aux sondages. Pour l'instant, c'est donc José Antonio Kast. On dit que son modèle, c'est Bolsonaro, on l'appelle même le Bolsonaro chilien. Il y a des choses, effectivement, sur l'avortement, le mariage gay, l'immigration, c'est pas un mur qu'on veut faire, mais un fossé pour éviter les migrations venant du Venezuela. Est-ce que, de fait, de toute façon, la droite traditionnelle refuse de se lier à lui, donc il est seul, ou est-ce qu'on risque d'avoir un phénomène à la Trump, où à la fin, la droite traditionnelle, de toute façon, va aller vers cet homme-là?
C'est très incertain. C'est vrai que le parallèle avec Bolsonaro est évident. Je connais de nombreux Chiliens qui, pour l'éviter et pour éviter ce qui s'est passé au Brésil, préfèrent se rallier au centre plutôt qu'à la gauche et courir ce risque. C'est vraiment très difficile de le dire. En tout cas, son programme s'aligne vraiment sur ce qui s'est vu dans d'autres pays latino-américains comme le Brésil.
Alors, sacré pédigré quand même, ce José Antonio Kast. Son père a été officier de la Wehrmacht, son frère a servi à la Banque Centrale sous le régime de Pinochet. Est-ce que ce qu'il dit, au fond, et le fait qu'il soit CEO, dit qu'une partie de la société chilienne n'a pas encore digéré, au fond, ni les les conditions du départ de Pinochet, ni ce qui s'est passé même ces 30 dernières années. Ça fait beaucoup de temps quand même. Est-ce qu'il y a une espèce de nostalgie de ça, ou est-ce qu'il y a une sorte de libération de la parole, exactement comme chez nous, en fait, d'une certaine façon, y compris en disant des horreurs comme en est capable José Antonio Cast?
Alors, je pense que c'est plutôt de nostalgie qu'il faut parler, de libération peut-être aussi, pas tant que ça en fait. Il y a effectivement une association entre cette personnalité et puis celle de Pinochet, dont ils ne se vantent pas trop quand même, hein. C'est-à-dire qu'il reste un petit peu flou quand même.
Non, mais il renie pas l'héritage.
Non, il ne renie pas l'héritage, mais il le revendique pas non plus ouvertement. Par contre, ce qui est plus inquiétant effectivement, c'est les thèmes qu'il met sur la table, qui sont clairement des thèmes d'extrême droite qui n'étaient même pas abordés effectivement à l'époque de Pinochet, qui se voulait, je vais pas en faire non plus quelqu'un qui faisait l'apologie des droits humains, hein, c'est bien le contraire, ouais, évidemment, ouais. Mais qui était vraiment sur un registre économique, Pinochet. Malgré la torture, malgré la dictature, c'était vraiment pour ça que les gens y adhéraient. Lui, il est très clairement sur un discours très très réactionnaire. Il a quand même, lors du débat de lundi soir, il a quand même demandé à une des présentatrices pour s'adresser à elle si elle était mariée. Donc là, on est vraiment à des années-lumière de ce qui peut s'appeler le progrès.
Mais ça représente vraiment quelque chose de très important, ça au Brésil, parce qu'une droite
au Chili,
excusez-moi, voyez, le lapsus est intéressant.
Oui, bien sûr.
Une droite, bon, très bien, on peut comprendre ce que c'est la droite. Là, en l'occurrence, on est vraiment bien au-delà. Donc cette espèce de nostalgie et cette capacité à entendre un discours aussi misogyne et extrémiste, est-ce qu'il y a un socle réel pour ça dans ce pays ?
Il y a un socle pour ça, il se le permet en ce moment parce que voilà, il sait que il peut se le permettre, que certains médias ont aussi envie d'entendre ça et le mettre en valeur. On peut entendre aussi tout le progrès et les changements réels qu'ont connu le Chili depuis les deux dernières années et les lois réelles qui sont passées dans ce pays et un féminisme, j'ai envie de dire profond, peut-être plus que dans d'autres pays comme le nôtre, qui ont permis quand même d'élire à deux reprises une femme à la présidence de la République.
Voilà, il faut rappeler aussi que cette fameuse constituante, elle est largement paritaire, elle est même tellement paritaire qu'il a fallu que des femmes se désistent, puisqu'il y avait plus de femmes que d'hommes pour arriver à 50-50. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression au fond que la gauche a le même problème que la droite. On disait que la droite modérée aura du mal à se rapprocher de Cast, mais la gauche modérée aura-t-elle du mal, est-ce qu'elle n'aura pas du mal elle aussi se rapprocher de Boric, qui a des positions qui sont aussi assez radicales, mais qui a lui aussi même une gauche de sa gauche. Donc on a l'impression que ce rassemblement de gauche, il ne s'est pas fait, en fait. En tout cas, pas autour de lui intégralement.
Alors, ce rassemblement de la gauche, il est quand même moins dangereux que celui de l'extrême droite portée par Cast. Hein.
Mais pas moins fragmenté, c'était le sens de ma question.
C'est tout à fait fragmenté. C'est tout aussi nostalgique aussi. Hein, on se rappelle d'un passé aliéniste, le Parti communiste. Je pense que vous y faites référence.
Par exemple,
très récemment, fait une déclaration concernant l'actualité au Nicaragua qu'il a tenté de racheter. Et en fait, le Parti communiste qui est rallié à Boric a refusé. Donc, il ne maîtrise pas non plus sa coalition de gauche, hein, effectivement. Donc, c'est tout à fait fragmenté, mais moins extrême, quand même, j'insiste, évidemment, que la droite.
Alors, on va rappeler le contexte, quand même, de cette élection. Les manifestations d'octobre 2019 ont été réprimées, parfois violemment. On a compté 8000 victimes. Il y a 400 cas de ce qu'on appelle des traumatismes oculaires, donc de vraies blessures à l'œil. On sait bien ce que ça veut dire. Ces violences-là ont aussi, d'ailleurs, été au cœur de la campagne. Et ça ne s'oublie pas, on va le dire. Olivier Poujade nous ramène ce reportage. On le commentera juste après.
Voilà. Il y a deux ans, ils étaient en première ligne sur les barricades. Aujourd'hui, ils occupent une annexe du ministère de la Santé. Sur les murs, des banderoles, des portraits d'autres victimes. Albano et Alvaro ont tous les deux subi de graves traumatismes oculaires pendant les manifestations.
Non, je te vois pas. Cet œil ne sert plus à rien. Celui-là est aveugle, j'ai mes deux yeux, mais celui-là ne voit plus rien.
Albano Cardena a 42 ans, il est infirmier. En octobre 2019, au plus fort de la révolte, il portait secours à un manifestant lorsque les carabiniers lui ont tiré dessus à hauteur de visage.
Je veux quand même rappeler qu'en France, il y a eu des traumatismes oculaires pendant la révolte des Gilets jaunes. D'après les statistiques qu'on a, une victime chaque mois en France. Au Chili, on a compté jusqu'à 9 traumas oculaires par jour. Pour que vous vous rendiez compte de la gravité de la situation et comprendre aussi le but de cette technique ordonnée par le haut commandement des carabiniers, le but c'était de faire mal aux manifestants parce qu'ils ne reculaient pas face aux méthodes plus classiques. Comme les lacrymos ou les canons à eau.
Au Chili, les projectiles d'impact cinétique sont utilisés depuis les années 70. Leur composition a certes évolué, mais les munitions anti-émeutes chiliennes intègrent encore aujourd'hui une petite quantité de plomb mélangée au caoutchouc. La loi interdit aux carabiniers de tirer à l'horizontale, à hauteur de visage et à moins de 30 mètres. Mais Alvaro Toro affirme que toutes ces consignes ne sont pas respectées.
L'État chilien autorise la violation systématique des droits de l'homme. Tout ça vient de la dictature. Depuis 40 ans, les militaires obéissent à la loi du silence. Et ils l'assument encore aujourd'hui. Le commandant des carabiniers, Mario Rosas, l'a dit. Aucun de mes hommes ne sera traduit en justice. Nous ne savons pas qui nous a tiré dessus. Ils nous demandent de fournir des photos, des vidéos. Sans ça, l'affaire est classée. C'est de l'impunité.
Sous la pression internationale, le président Sébastien Piñera a engagé l'État chilien à prendre en charge les victimes de traumas oculaires, à enquêter aussi sur les méthodes employées par la police militaire pendant les manifestations d'octobre 2019. Mais Alfredo Joignan, spécialiste de la politique chilienne, rappelle que le gouvernement ici a très peu de pouvoir sur le haut commandement des carabiniers.
C'est une police qui, dans le contexte des manifestations, conserve un niveau d'autonomie fonctionnelle extraordinairement important. C'est comme si il cessait d'obéir les ordres du pouvoir civil. C'est une autonomie qui est très dangereuse. Aucun gouvernement, même pas la droite, aucun gouvernement a réussi à mettre la main sur cette autonomie fonctionnelle.
Un projet de réforme de la police chilienne est aujourd'hui en discussion pour établir une nouvelle hiérarchie, lutter aussi contre la corruption et les méthodes abusives des carabiniers chiliens. Réforme sur laquelle l'ultra-conservateur José Antonio Kast et le candidat de la coalition de gauche, Gabriel Boric, ne partagent évidemment pas le même point de vue.
Olivier Poujadé, Gilles Gallinaro pour le reportage. Cécile Falliès, jusqu'à quel point ce genre de sujet rentre dans la campagne et nous parle d'un climat précisément?
Alors justement là, en l'écoutant, je me disais que on comprend bien quand même la nostalgie.
Exactement.
La nostalgie, effectivement, du coup d'état militaire de 73, puisque et puis la suite, la torture, les atteintes aux droits de l'homme, évidemment.
La puissance et l'autonomie militaire aussi.
Voilà, c'est ça. Et en fait, qui ressurgissent, puisqu'on se rappelle aussi que ce qui a provoqué l'explosion, l'estallido social de 2019, ce n'est pas tant le passage de ces tourniquets de métro de quelques étudiants, mais ça a été l'envoi immédiat par Piñera des forces armées, en fait, dans les rues de Santiago. Donc cet affrontement, il est quand même très, très présent, et puis on voit qu'il fait du mal, vraiment physiquement, à une partie importante de la population.
Alors présent peut-être latent, on va pas faire de la politique fiction, mais imaginons que c'est Kast qui est élu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il a le droit de s'asseoir sur la constitution qui est en cours d'écriture, de remettre tous les compteurs à zéro? On ne finit même pas les travaux. On peut faire ça? C'est possible ou pas?
Alors de toute façon, la constitution va être soumise à un vote sortant. Un référendum. Une fois qu'elle sera rédigée, elle sera effectivement soumise à un référendum. Donc même si le processus va aussi loin et si la Chambre des députés qui va être partiellement aussi recomposée est acquise à Kast, on sait très bien qu'il y aura un retour à la Constitution de 80. Mais certainement aussi des mouvements très violents et des situations de, à mon avis, à nouveau de guerre civile dans le pays.
La clé, peut-être, pour éviter d'en arriver à cette situation-là, c'est la participation. On sait que les Chiliens votent très peu. Est-ce qu'il y a un retour, un rebond qui serait lié à l'enthousiasme ou au rejet, d'ailleurs, à la fois des manifestations de 2019, mais aussi de la constituante qui s'est mise en place? Est-ce que ça booste les électeurs dans un sens ou dans un autre, ou pas du tout?
Oui, certainement, quand même. On pense... alors, c'est là où les sondages ne mentent peut-être pas tant que ça, c'est que bon, caste à un électorat acquis, on pourrait dire. Hein, c'est un électorat relativement plus âgé, de la droite, monté en épingle par le grand capital chilien, qui est très puissant, évidemment, donc qui est un électorat stable, hein, et un électorat reboosté du côté de Boric, parmi les jeunes, mais pas simplement. Il a fait campagne sur les jeunes, mais aussi sur la famille, sur la solidarité avec les personnes âgées, sur les pensions de retraite. Hein, il a créé un programme vraiment participatif. Et donc, ça rentre vraiment au cœur des questions, les questions de santé qui sont transversales, en fait. Donc, des personnes âgées aussi pourraient voter pour ce candidat très jeune. Effectivement, il a 35 ans et qui porte des questions plus de la jeunesse, mais quand même de façon assez... convaincante.
Il y a une dernière question rapidement, Cécile Falliès, parce que ça compte aussi pour le scrutin. Dans quel état économique le Chili sort-il de la pandémie? Est-ce qu'elle en sort d'ailleurs? Est-ce qu'il en sort d'ailleurs? Où est-ce qu'on en est pour l'instant? Mais est-ce qu'il y a eu vraiment une chute? On a l'impression qu'on s'en est mieux sorti au Chili que dans pas mal de pays voisins, en fait.
Alors, c'est très difficile à dire. Le Chili repose toujours sur sa très belle quantité de cuivre qui rentre pour beaucoup dans la composition de beaucoup de d'outils qu'on utilise, là, les ordinateurs, etc. Et dont les cours mondiaux sont assez élevés. C'est la seule ressource d'ailleurs qu'ils n'ont pas privatisée, qui reste nationale et qui est une bourse vraiment où on va piocher en cas de difficulté. Donc effectivement, ce pays, sur cette ressource extractive, s'en sort plutôt bien. Mais ça reste quand même assez compliqué avec l'imitation du tourisme également.
Et donc volatile, on a bien entendu en tout cas dans ce que vous nous dites jusqu'à quel point on peut aller aussi vers une situation difficile, voire dangereuse. Vous avez prononcé le mot de guerre civile tout à l'heure. Les élections, c'est dimanche. Le deuxième tour, ce sera le 19 décembre et on aura largement l'occasion d'en reparler peut-être avec vous. Merci beaucoup.
J'espère, merci.
Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Je vous emmène à la chasse à la truffe blanche, figurez-vous, en Italie, denrée de plus en plus rare et devinez quoi, de plus en plus chère. Et pour aller jusqu'à 19h et passer la soirée avec vous, Sébastien Logeni sous les radars.
Nous irons au Vietnam où le Parti communiste se paye des steaks saignants à prix d'or.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Bonsoir en direct de Bruxelles, Angélique Boin.
Bonsoir, on va parler taxonomie, Fabienne, au cœur d'un bras de fer franco-allemand. Alors c'est quoi? Eh bien c'est la liste des énergies éligibles à des investissements verts. Faut-il y inclure le nucléaire?
Le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous, la diplomatie essaie d'arrêter l'engrenage d'une guerre ethnique en Éthiopie, mais il est peut-être déjà trop tard.
Allez, à tout de suite tout le monde, le temps d'écouter les Hills, Steam Engine, c'est sur France Inter. Steve! Le bruit du monde ce soir est en Italie, vous l'entendez. Et à table, nous allons à la chasse à la truffe blanche d'Alba, figurez-vous. Elle s'échange à prix d'or, c'est l'un des mets les plus prisés, mais la truffe blanche d'Alba n'aime pas patienter, elle doit être consommée rapidement, sachez-le. C'est aussi la pleine saison donc dans sa région du Piémont, au sud de Turin, c'est là que je vous emmène. Mais question, la truffe d'Alba est-elle éternelle? Le reste, c'est Bruce de Galzin qui raconte.
Sur la magnifique route qui mène d'Alba aux collines du Barolo, le chef étoilé Massimo Camilla nous reçoit dans la cuisine de son restaurant.
Scusate ragazzi, via il primo tavolo 5.
Possiamo andare con un plin fonduto a tartufo.
Massimo vient d'envoyer des raviolis au tartufo bianco, à la truffe blanche d'Alba, qu'il a lui-même râpée devant son client. Mais cette truffe, il faut savoir la reconnaître.
C'est pas facile parce qu'elles n'ont pas de plaque d'immatriculation. Moi, je suis un fils de chercheur de truffes, je m'y connais. La truffe doit être très compacte, avec un poids très spécifique. C'est ainsi que l'on voit qu'elle est fraîche. Elle doit être très parfumée, avoir un grain très subtil. Mais c'est difficile de dire « celle-ci est mieux » parce que la truffe est un produit de la nature que l'on ne peut pas contrôler.
Et même si la France vient de cultiver 7 truffes après 20 ans de recherche, Massimo reste dubitatif. Lui, il achète directement au Trifoulao, les chercheurs de truffes, ou à un fournisseur d'extrême confiance, dit-il. Son prix peut changer d'une semaine à l'autre, en fonction de l'offre, et s'échange en moyenne à 350 euros les 100 grammes.
Dov'è? Cosa c'è? Dov'è?
Carlo Marenda cherche la truffe avec ses chiens, Book et Gaia.
Ok, stop. Maintenant, on va voir quelle sorte de truffe on vient de trouver.
Ce sera finalement une fausse alerte. Book ne trouvera pas de truffe ce soir dans les collines de Rodi, au sud d'Alba, non loin de la route. Le lieu n'est pas du tout secret. Nos yeux n'ont pas été bandés pour éviter que l'on reconnaisse l'endroit, non. Carlo, qui n'a pas encore 40 ans, estime que la chasse aux truffes a bien changé.
Les chercheurs de truffes qui ont 70-80 ans aujourd'hui trouvaient beaucoup plus de truffes il y a 30 ans. Ils ont vécu l'âge d'or. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous devons dialoguer davantage pour éviter l'erreur qui a été faite à l'époque, lorsque les chercheurs de truffes allaient les déterrer dans les jardins ou les bois de leurs voisins, sans même leur payer un café ensuite et discuter. Tous ces secrets et cette perte d'information, même entre un père et un fils, font qu'aujourd'hui, une partie de ce patrimoine est perdue, aussi bien les arbres que le savoir.
Pour Carlo, les bois ne sont pas assez entretenus, la nature n'est pas assez préservée, et avec le changement climatique, les truffes apparaissent de plus en plus tard. Un autre homme se fait entendre à Alba, Roberto Ponzio, le fils de celui que l'on surnommait le roi des truffes blanches. Il a créé un musée à la gloire de son père, un génie du marketing qui envoyait ses truffes chez les puissants du monde entier.
Là, c'est Buckingham Palace, avec les remerciements de la reine Elisabeth II en 1959. En 1961, c'est De Gaulle.
Ici, escrito, votre aimable et magnifique envoi est bienvenu à la présidence de la République. Donc, il y a une lettre du général De Gaulle qui le remercie de lui avoir envoyé le tartufo bianco.
Et là, vous voyez les remerciements de Madame Kennedy.
Mais le père de Roberto Ponzio certifiait l'origine des truffes qu'il vendait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Son fils nous montre une carte du Piémont qui trône dans son musée.
Là, vous voyez la situation dans le Piémont. Si vous faites un relevé aérien de la zone potentielle de production de la truffe, vous n'avez pas grand-chose. La production est très réduite. Et pourtant, on peut consommer de la truffe dite d'Alba partout à travers le monde, à Dubaï même. Mais ce n'est pas possible, la truffe d'Alba se trouve en quantité extrêmement limitée.
Même à la foire d'Alba, qui aura bientôt 100 ans, il se vend des truffes qui ne viennent pas d'Alba, mais de Toscane, de Molise ou de Croatie. Certaines truffes ont même été piquées pour y injecter l'odeur si particulière de la truffe blanche, nous raconte hors micro une ancienne restauratrice originaire de la région. À Alba, il y a une guerre entre ceux qui réclament une loi pour obtenir une dénomination d'origine contrôlée, une traçabilité, et ceux qui estiment que ce n'est pas nécessaire, comme Liliane Alena, la présidente de la foire internationale.
Aujourd'hui, la truffe blanche d'Alba est une marque connue dans le monde entier. Ce n'est pas possible d'obtenir cette traçabilité, car si nous demandons à un chercheur de truffes où il l'a trouvée, il ne nous le dira jamais. Et pour nous, les truffes ne proviennent pas seulement d'Alba. Il y en a dans l'Astigiano, le Monferrato, dans tout le Piémont et ailleurs en Italie. également. L'important, c'est que ce soit un produit d'excellence. Et pour certifier cette excellence, depuis 15 ans, un jury contrôle et analyse tous les produits vendus sur le marché.
Siamo quasi a 100.000 euros.
100.
Et la truffe continue à affoler les ventes aux enchères. Dimanche dernier, la vente de la foire d'Alba a encore battu son propre record avec une truffe blanche de 830 grammes achetée plus de 100 000 euros par un entrepreneur de Hong Kong.
100.000 euros à Hong Kong.
100.000
anche quest'anno. Ciao ragazzi.
Eh ben, va falloir qu'elle voyage vite, celle-là. À ce prix-là, si vous ratez la recette, j'ose même pas imaginer ce que ça veut dire. Bruce de Galzin pour le reportage. Merci mille fois. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et c'est Sébastien Legénie. Les rues de Hamtramck, c'est dans le Michigan, Sébastien, devenue ce mois-ci la première ville américaine dirigée par un conseil municipal entièrement musulman.
Oui, Hamtramck était déjà connu pour son exceptionnelle mixité. Cette petite ville très pauvre de près de 30 000 habitants, située juste au nord de Détroit, est surnommée le monde en 5 km carrés. 30 langues différentes y sont parlées. Trois grandes vagues d'immigration s'y sont succédées depuis un siècle. Les Polonais, les Yéménites et les Bangladais. Pendant des décennies, ce sont les catholiques polonais qui dirigeaient la mairie. Le pape Jean-Paul II y est même passé. Mais depuis deux semaines, la ville a donc franchi un nouveau cap. La moitié de sa population est désormais de confession musulmane et c'est donc un maire d'origine yéménite qui s'est assis dans le fauteuil de maire. Il s'appelle Amer Ghalib, 42 ans, arrivé aux États-Unis à l'âge de 17 ans, ancien ouvrier chez General Motors et maintenant professionnel de santé. Il est entouré d'un conseil municipal entièrement musulman, trois membres d'origine yéménite, deux d'origine bangladaise et une polonaise convertie à l'islam. Mais tous promettent de travailler pour toutes les communautés, de faire de la religion une question privée. À chaque élection, Hamtramck est scruté de près, pardon. Il y a 6 ans, quand le conseil municipal était devenu pour moitié musulman, les médias du monde entier s'y étaient précipités, tantôt pour agiter les peurs, tantôt pour montrer un visage uni de cette ville multiculturelle. Pendant la dernière campagne, deux premiers débats culturels ont agité les électeurs. Faut-il faire flotter le drapeau gay devant l'hôtel de ville et faut-il ouvrir des bars à marijuana? Le nouveau maire s'y est opposé, mais ne se dit pas pour autant opposé à cela pour des questions de croyance et d'origine. Bref, la ville d'Hamtramck n'a pas fini d'attirer les regards du monde entier.
Les directions du Vietnam qui s'enflamment pour une histoire de steak saignant.
La polémique a commencé il y a 2 semaines avec une vidéo qui a fait le tour du monde. On y voit le célèbre cuisinier turc Salt Bey faire son traditionnel show, mais cette fois-ci face à des hauts responsables du parti communiste vietnamien. Et si vous ne connaissez pas le phénomène Salt Bey, c'est ce boucher qui triomphe sur Internet en coupant la viande rouge comme un samouraï et en salant ses pièces de bœuf comme une danseuse étoile. Le steak est parfois recouvert de feuilles d'or 24 carats et c'était justement le cas dans cette vidéo quand les dirigeants du PC ont été filmés. Un steak à plus de 1 000 $ dans un pays où le salaire moyen atteint péniblement les 180 $. Le scandale ne retombe pas au sein de la population vietnamienne. Dernier épisode en date, un vendeur de rue, un vendeur de nouilles qui parodie Salt Bae sur Facebook en saupoudrant sa soupe d'oignon avec les mêmes mimiques que le chef turc. Pas un mot, juste un clin d'œil très drôle, mais cela a suffi à le faire convoquer par la police. Voilà, on l'entend ici, le vendeur de nouilles dans un commissariat de Da Nang se plaindre de cette convocation, mais pour l'instant l'affaire en est restée là. Le chef turc, lui, n'en est pas à son premier incident diplomatique. Il y a 2 ans, le président vénézuélien Nicolas Maduro s'était fait filmer dans son restaurant en Turquie avec sa femme, alors que Caracas connaissait l'une de ses pires crises économiques.
Le Venezuela, justement, qui tente de battre le record Guinness du plus grand orchestre du monde.
C'était il y a 5 jours, Fabienne. Quelques 12 000 musiciens vénézuéliens issus de tout le pays réunis samedi dernier à Caracas pour interpréter la marche slave de Tchaïkovski. Le morceau a duré 12 minutes dans une ambiance assez tendue, il faut le dire. Si une corde se casse, a expliqué le chef d'orchestre, ne vous arrêtez pas. Si vous perdez la partition, continuez de mémoire, ne vous arrêtez pas. L'exploit a été interprété sous l'œil de quelques 260 employés du cabinet d'audit KPMG, chargé de s'assurer que les musiciens respectaient bien les règles pour établir le nouveau record. Interdit de se partager les instruments, obligation de jouer au moins 5 minutes pour chaque musicien. Le record du plus grand orchestre du monde est détenu actuellement actuellement par un orchestre russe de 8097 musiciens exactement. Le Guinness doit annoncer sa décision dans les 10 prochains jours. On retient son souffle.
Vous pouvez respirer, Sébastien, ça va aller. Merci beaucoup. On se retrouve tous les deux lundi. Avant de retrouver Angélique Bouin à Bruxelles, voici Rodriguez, Sugarman, sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue corn, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Black coal, silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams?
Sugarman et Rodriguez sur France Inter, direction Bruxelles comme chaque jeudi.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union générale.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Bouin. Aujourd'hui, vous allez nous décrypter le bras de fer en cours entre les 27 et là, sur la taxonomie. C'est un mot un peu barbare. C'est quoi, d'abord, Angélique, la taxonomie?
Je vous vois venir, Fabienne. Ça n'a rien à voir avec les animaux empaillés.
D'accord, j'allais vous demander, merci.
Ça fonctionne néanmoins en anglais, en français. C'est pratique. La taxonomie, c'est le nom qu'on a donné ici à Bruxelles à la liste des énergies qui seront considérées comme vertueuses pour le climat et éligibles au financement vert. Et cette liste, dont la composition est en cours de finalisation, elle est au cœur d'un énorme bras de fer entre ceux qui veulent y voir figurer le nucléaire et dans une certaine mesure le gaz, et ceux qui estiment que cela lui enlèverait, face aux investisseurs, toute crédibilité. Alors la crise de l'énergie, les prix d'électricité qui flambent, ça a donné de l'eau au moulin à ceux qui veulent encore miser sur le nucléaire, comme la France et les pays de l'Est, mais cela fait s'étrangler ceux qui estiment qu'il faut réserver cette manne financière aux énergies renouvelables. Le débat est particulièrement vif sur la question du nucléaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il oppose frontalement et sans aucune nuance la France et l'Allemagne. Sans qui, vous le savez bien, en Europe, on ne trouve pas de compromis. La Commission européenne est sous pression. C'est elle qui doit présenter bientôt un acte délégué. C'est l'équivalent d'un décret sur ce sujet. Acte qui doit être soutenu par une majorité qualifiée des États membres pour pouvoir être validé.
Et alors, il y a plus, Angélique, qu'une rivalité franco-allemande. Il y a deux camps même désormais.
Oui, il y a la France qui a déjà annoncé vouloir construire de nouvelles centrales et qui a trouvé des alliés, une dizaine à l'est de l'Europe en particulier, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Finlande. Le nucléaire protégera les consommateurs de la volatilité des prix, déclare-t-il dans une lettre rendue publique. Mais de l'autre côté, il y a l'Allemagne, l'Autriche, suivie par d'autres États, Danemark, Luxembourg. Ils y sont farouchement opposés. Ces États l'ont fait savoir en dégainant à leur tour un courrier en marge de la COP26. Au Parlement européen, les Verts, évidemment, sont aussi vent debout. Certains disent même que le président Macron n'est vraiment pas fair-play dans ce bras de fer. Je vous propose d'écouter l'eurodéputée écologiste franco-allemande Anna de Pernay-Grönenberg. Elle est très anti-nucléaire. Elle ne décolère pas contre le président Macron, qu'elle accuse de profiter de l'absence de gouvernement en Allemagne pour avancer ses pions au mépris, dit-elle, de ses engagements climatiques.
L'énergie nucléaire et les conséquences avec les déchets nucléaires qu'on ne sait pas traiter est vraiment quelque chose de très émotionnel en Allemagne. Pour le contribuable allemand, c'est impossible de se dire que les fonds fléchés européens, dont ils participent évidemment aussi, vont aller peut-être sous pression de la France dans de nouvelles centrales nucléaires. C'est vraiment en fait mettre une épreuve à cette entente franco-allemande. Et justement, dans cette période de négociation du nouveau gouvernement, c'est quand même une méthode qui n'est pas très européenne, alors que M. Macron se dit toujours être un grand Européen.
Voilà, un coup de canif dans l'amitié franco-allemande, rien de moins. Voilà ce qu'on entend en marge des négociations qui se jouent en coulisses. C'est vous dire, le climat actuel s'attiraille aussi au sein même de la Commission.
Et ça veut dire que les déclarations publiques se succèdent.
Oui, Angela Merkel, qui s'exprime quand même assez peu en ce moment, a répété hier qu'elle était contre l'idée que l'on puisse classifier le nucléaire en énergie donc durable. Elle défend en revanche le maintien du gaz dans cette taxonomie, mais comme énergie de transition, pas comme énergie verte. Dans certains pays de l'Est très dépendants du charbon, où l'on commence d'ailleurs à dire que le pacte vert est vraiment trop strict, on se réjouit évidemment d'avoir la France comme alliée. Chez eux, on mise sur le nucléaire et le gaz. Les ONG environnementales sont furieuses. On va voir quel compromis émerge. Certains ici évoquent l'idée de créer une catégorie orange plutôt que verte dans laquelle on mettrait le nucléaire. À la tête de la commission environnement au Parlement, Pascal Canfin, macroniste, propose lui plutôt d'aménager en quelque sorte cette liste. On pourrait y intégrer le gaz et le nucléaire, mais les investisseurs pourraient cocher en quelque sorte une case s'ils ne veulent pas que leur argent y soit fléché. Il ne veut pas non plus qu'on finance de centrales à gaz. Il veut qu'on finance de centrales à gaz, pardon, que si c'est pour remplacer le charbon. L'idée qui est quand même en train d'être discutée, c'est qu'on mettrait des conditions. On va voir d'ici peu où tout cela va nous mener.
Voilà, centrale à gaz, peut-être même usine à gaz, là, en vous entendant, Angélique Boin depuis Bruxelles. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, une nouvelle offensive diplomatique est en cours depuis ce matin pour éviter que l'Éthiopie, en Afrique de l'Est, ne s'enfonce dans un conflit ethnique majeur. Il est peut-être trop tard. La guerre depuis un an a déjà fait des milliers de morts et le pays semble au bord de l'implosion. C'est votre monde d'après.
Oui, l'effort diplomatique est réel. Tant mieux, hein, si le sujet est pris au sérieux. Les États-Unis mettent leur poids dans la balance. Le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en Afrique depuis hier et son émissaire Jeffrey Feltman est retourné en Éthiopie ce matin. Washington peut notamment utiliser des moyens de pression commerciaux avec la possible suspension de la loi dite AGOA qui exempte plusieurs pays africains de droits de douane sur le sol américain. Vu des États-Unis, la crise en Éthiopie est le sujet prioritaire du moment dans cette partie du monde. Les voisins africains sont également mobilisés dans cette offensive diplomatique. Là aussi, c'est tant mieux. Le Kenya est en première ligne, ainsi que l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, figure respectée sur le continent. Il a lui aussi été dépêché en Éthiopie ce matin au nom de l'Union africaine. Il semble faire la navette entre le pouvoir en place à Addis Abeba, la capitale, et les groupes rebelles qui menacent de marcher sur la ville. Tous ces intermédiaires multiplient les appels au cessez-le-feu. Ils cherchent des compromis entre des belligérants peu disposés à se parler. Autant d'efforts bienvenus, mais il faut se dépêcher. Il y a urgence et l'enjeu est de taille.
Vous voulez dire qu'on parle d'un pays très très important en Afrique?
Ouais, c'est vrai que vu d'ici, l'Éthiopie, ça peut paraître loin, mais il y a beaucoup en jeu. D'abord, il y a le poids intrinsèque de l'Éthiopie en tant que tel. C'est un géant. 110 millions d'habitants, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Un poids lourd politique, en partie compte tenu de son histoire. Le pays a résisté à la colonisation, en partie en raison des espoirs suscités par le Premier ministre Abiy Ahmed, nobélisé, faut-il le rappeler, en 2019, avant de se transformer, un comble, en chef de guerre. Une locomotive économique aussi, une forte croissance, un marché intérieur en pleine expansion avec une modernisation rapide. Ensuite, il y a le risque d'une déstabilisation de tout l'Est de l'Afrique. Une guerre civile généralisée en Éthiopie aurait des effets en chaîne dans toute la région. Elle déclencherait un afflux de réfugiés, une crise humanitaire dans une zone où plus de 2 millions de personnes sont déjà menacées par la faim. Au sud, le Kenya, qui compte déjà de 400 000 demandeurs d'asile éthiopiens, n'aurait pas les moyens de faire face. À l'est, cette fois, en Somalie, les islamistes Shebab profiteraient sans doute de la situation d'un désengagement des troupes éthiopiennes qui prêtent main forte aujourd'hui au pouvoir somalien contre le terrorisme. À l'ouest, le Soudan, déjà plongé en plein chaos après un putsch militaire, n'a pas besoin d'une source d'instabilité supplémentaire. Au nord, l'Érythrée, déjà partie prenante au conflit en Éthiopie. Bon, j'arrête l'inventaire, mais on pourrait aussi rajouter l'Égypte en contentieux avec Addis Abeba en raison du grand barrage sur le Nil construit par l'Éthiopie. Ça fait beaucoup.
Et donc, il y a surtout, et aussi, pardon Jean-Marc, il y a aussi le risque d'une tragédie de type guerre ethnique.
Oui, si Addis Abeba tombe aux mains des rebelles, on sera tenté de penser, vous savez, à la chute de Kaboul, mais en fait, la comparaison ne vaut pas. On sera aussi tenté de redouter un engrenage fatidique comme celui du génocide Tutsi au Rwanda. C'est davantage vrai, enfin le risque est plus grand, mais la comparaison la plus pertinente est plutôt à chercher du côté des guerres ethniques des années 1990 dans les Balkans. L'Éthiopie, c'est un patchwork de dizaines d'ethnies. Les cinq principales sont les Oromo, les Amara, qui sont le pilier du pouvoir central, les Tigréens, les Somalis et les Afars. Les trois premières de ces ethnies sont déjà impliquées dans le conflit depuis que l'an dernier, l'armée fédérale a été envoyée par le Premier ministre Abiy Ahmed, donc pour réprimer le Tigré au nord, un échec. Aujourd'hui, dans la capitale, des milliers de Tigréens sont victimes d'arrestations arbitraires sans autre raison que leur appartenance ethnique. Constat effectué par l'ONU et par Amnesty International. Dans les autres régions du pays, même si les témoins directs manquent, le soupçon de règlement de comptes ethniques est également réel. Les appels à la violence se multiplient sur les réseaux sociaux, les apprentis sorciers sont de sortie. On connaît ce type d'engrenage de sinistre mémoire. Il conduit aux pires atrocités, les viols, les massacres à grande échelle, le cercle vicieux des représailles, etc. Il faut croiser les doigts pour que la diplomatie parvienne à arrêter l'engrenage en Éthiopie pendant qu'il en est encore temps.
Jean-Marc Fauré, Le Monde d'après. Jean-Marc, merci beaucoup. On y reviendra probablement très vite sur ce sujet dans Un jour dans le monde. Dans un instant, la suite du 18-20 de France Inter, c'est le journal d'Hélène Filly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.